l'écoute de Radio France Internationale, il est 8h à Paris, 7h en temps universel.
Marion Cazanove.
Et le journal avec Alban Le Prince à la une. Alban, ces violences dans l'ouest de la Syrie.
Plus de 1000 morts, dont 745 civils alaouites, dans des affrontements entre fidèles de Bachar al-Assad et nouvelles autorités. RFI a pu obtenir le témoignage de membres de cette communauté. Gaza, qui attend la deuxième phase du cessez-le-feu dans l'enclave, cela fait une semaine que l'aide humanitaire n'entre plus et les associations craignent que la situation dure. Dans ce journal, également le gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Alors que la Russie a revendiqué hier la prise de 3 villages, l'armée ukrainienne peut-elle encore tenir sans les Américains? Si oui, combien de temps? Élément de réponse à suivre. Et puis nous ferons un tour dans les kiosques en Allemagne au lendemain de la conclusion d'un accord de principe entre Friedrich Merz, le futur chancelier conservateur, et les sociaux-démocrates pour former un gouvernement.
Plus de 1000 morts en 3 jours en Syrie.
C'est le bilan des affrontements en cours depuis jeudi entre les fidèles de l'ancien régime de Bachar al-Assad et les nouvelles autorités dans les régions de Tartous et Latakia où les écoles resteront fermées. Demain, parmi les victimes, plus de 745 civils alaouites selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Oriane Verdier et Nicolas Falaise ont pu s'entretenir pour RFI avec des membres de cette communauté.
Yes. Ce sont des témoignages sonores qui nous ont été transmis par des habitants de la province de Latakia. Les voix ont été modifiées. Les enregistrements décrivent des scènes de violence. Un homme raconte que son fils a été égorgé et que les habitants ont été chassés de leurs habitations. Ce même témoin assure qu'il n'a aucun lien avec l'armée de l'ancien régime syrien, celui de Bachar al-Assad. Autre témoignage, celui de cette femme qui évoque des cadavres dans les rues et ajoute que les auteurs des massacres empêchent les survivants de récupérer ses dépouilles. Plusieurs de ses interlocuteurs assurent que les auteurs des violences ne parlaient pas avec l'accent syrien, ce qui attesterait de la présence de combattants étrangers dans les rangs des auteurs de ces exactions. Les enregistrements obtenus par RFI sont ponctués d'appels au secours adressés à la communauté internationale ou aux Nations Unies. Ces témoignages s'ajoutent à des vidéos et photos en provenance des mêmes secteurs et qui montrent des scènes d'exécution ainsi que des cadavres.
Et la France a réagi à cette flambée de violence. Elle condamne avec la plus grande fermeté les exactions contre les civils sur une base confessionnelle. Les églises syriennes dénoncent de leur côté les massacres de civils innocents et appellent à la fin immédiate de ces actes horribles. Et
toujours au Proche-Orient, le Hamas demande l'ouverture immédiate des négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.
Après avoir évoqué hier des signaux positifs lors de discussions avec les médiateurs au Caire en Égypte. De son côté, Israël a annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar demain pour discuter de la suite de la très fragile trêve dans l'enclave palestinienne où l'aide humanitaire n'entre plus depuis une semaine. Une situation inquiétante pour les associations humanitaires. Amira Swilem.
Sur Instagram, Gaza Soup Kitchen, une association qui distribue des repas chauds dans l'enclave palestinienne, tente de continuer à maintenir un semblant de normalité. Les musiques des vidéos se veulent joyeuses, mais Roulet, bénévole de 20 ans, avoue son inquiétude alors que jusqu'à 800 familles peuvent dépendre d'eux pour se nourrir certains jours.
Sincèrement, j'aimerais que le monde entier puisse voir comment on vit depuis que la guerre s'est arrêtée. Tout devient compliqué, c'est difficile de distribuer de la nourriture, de trouver de l'eau potable, d'avoir de l'électricité. Après la guerre, c'est une autre guerre qui a commencé. Ce qu'on vit en ce moment, c'est une sorte de guerre psychologique.
Malgré tout, l'association ne veut pas baisser les bras. Pour les milliers de personnes qui comptent sur elle, mais aussi pour maintenir en vie cette structure créée par le chef Mahmoud El-Madoun, tué dans une attaque de drone israélien en décembre dernier, alors qu'il livrait des colis alimentaires. Les membres de l'association veulent continuer à se mobiliser.
Moi, j'avais commencé des études de psychologie à la fac, mais quand la guerre a commencé, j'ai dû arrêter. Maintenant, je travaille chez Gaza Soup Kitchen. On a 6 équipes différentes. Chacune opère dans une partie de Gaza. On distribue de la nourriture aux patients, dans les hôpitaux aussi. On aide beaucoup la population, surtout dans le nord qui est dévasté.
Pour l'instant, l'association tient sur ses stocks. Cette semaine, des experts indépendants de l'ONU ont accusé Israël, je cite, de militariser la famine. Amira Swilem, Jérusalem, RFI.
Et dans le sud de la bande de Gaza, 2 Palestiniens ont été tués hier dans une frappe à Rafah, tandis que dans la journée, plus de 50 ex-otages israéliens et familles de captifs ont appelé Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, à conclure un cessez-le-feu complet avec le Hamas pour permettre de libérer tous les otages.
La France va mobiliser 195 millions d'euros pour l'Ukraine grâce aux intérêts des avoirs russes gelés. C'est ce qu'annonce ce matin Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, dans le journal La Tribune dimanche.
L'Australie, elle, dit envisager prendre part à une mission de maintien de la paix dans le pays une fois un cessez-le-feu en vigueur. C'est dans ce contexte qu'une délégation ukrainienne doit rencontrer mardi en Arabie Saoudite une équipe américaine, alors que sur le front, Kiev est de plus en plus en difficulté. Moscou a revendiqué la prise de 3 villages dans la région de Koursk hier, profitant de l'arrêt du soutien américain. Mais alors, l'armée ukrainienne peut-elle tenir sans l'aide des États-Unis? Nicolas Tenzer, politologue, enseignant à Sciences Po et directeur de la publication de la newsletter et du site Desk Russie.
L'armée ukrainienne, oui, est capable de tenir. C'est très difficile de donner une durée précise, bien sûr. Tout dépendra aussi de ce que feront les Européens de leur côté. Mais quand on voit malgré tout les capacités industrielles des Européens, surtout s'ils passent effectivement, et ils semblent quand même résolus à le faire, en économie de guerre, ça va permettre en quelque sorte de retarder, si j'ose dire, une échéance qui n'est d'ailleurs pas fatale, parce que l'armée russe est quand même, elle aussi, en mauvaise posture. Les sanctions, même si elles restent encore insuffisantes, mordent. L'économie russe est en déclin. Même l'industrie de guerre russe est aujourd'hui quand même fortement atteinte. Donc, il n'y a pas du tout, je dirais, de crainte à avoir, même si la situation, bien sûr, est très tendue et très difficile aussi. Ça, il ne faut pas évidemment l'oublier. Donc, là aussi, je crois qu'il ne faut pas du tout penser que dans 5 ou 6 mois, ça sera fini de l'Ukraine.
Des propos recueillis par Romain Lemaresquier.
Aux États-Unis, la colère monte contre Elon Musk, le bras droit de Donald Trump.
Et certains regrettent désormais de rouler en Tesla. Des attaques ont même visé la marque de voitures électriques du milliardaire. Tir à l'arme automatique sur les vitrines. Jets de cocktails Molotov, tags. D'autres font le pied de grue devant les concessions. C'est le cas près d'Atlanta où s'est rendu Edouard Maille.
Devant le magasin, des dizaines de voitures Tesla alignées, dont les rectangulaires dites Cybertruck. À chaque fois qu'un client sort du parking, c'est pour être accueilli par la centaine de manifestants anti-Elon Musk. Jessica Farmer espère ainsi décourager les clients.
Si on peut être ici pour faire honte aux personnes qui entrent et achètent un Cybertruck, ça sera plus difficile pour eux d'y aller et d'en acheter.
Laura Gordon, qui a organisé la manifestation, fait des allers-retours sur ce bord de route pour remercier chacun d'être venu.
C'est très important que les gens comprennent qu'Elon Musk est un responsable politique qui n'a pas été élu, mais qui est en train de détruire la démocratie, et il va continuer tant qu'il le peut. Donc, c'est très important que les gens abandonnent Tesla en vendant leurs voitures et leurs actions en bourse et faire tout ce qu'ils peuvent pour affaiblir Elon Musk.
Matt Hunter se sent aujourd'hui moins seul. Cela fait 3 semaines qu'il vient presque tous les jours brandir sa pancarte, avec certains succès.
Une femme est venue vers nous pour nous dire qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle avait vendu sa Tesla pour une autre voiture. C'était très encourageant et ça a fait notre journée.
En moins de 3 mois, Elon Musk a perdu plus de 120 milliards de dollars en valeur boursière. C'est un peu moins d'un quart de sa fortune qu'il avait en décembre. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Nous sommes tous convaincus que nous avons une grande tâche à accomplir. Les mots hier de Friedrich Merz, le futur chancelier allemand.
Le conservateur a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec les sociaux-démocrates pour former un gouvernement de la défense à l'immigration, en passant par l'économie. La feuille de route est radicalement opposée à celle d'Olaf Scholz et elle est désormais établie. Qu'en dit la presse ce matin, Nathalie Versieux?
Bien, on peut dire que la presse est plutôt incrédule. Les titres vont de l'euphorie à l'espoir. Le tabloïd Bild se félicite, par exemple, de l'accord trouvé sur les migrations, qui était, rappelons-le, la préoccupation principale de 64% des Allemands avant les élections. Le virage migratoire promis arrive, s'écrit le Bild ce matin. La coalition rouge-noire dévisse tous les fusibles, s'étonne de son côté le conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung, satisfait de l'accord migratoire, mais sceptique face aux centaines de milliards d'euros de dettes que s'apprêtent à conclure les futurs partenaires de coalition. Le quotidien de centre-gauche Süddeutsche Zeitung rappelle pour sa part que le programme de la future majorité ne se réalisera pas sans le soutien des Verts. La CDU et le SPD auront en effet besoin de l'appui des écologistes au Bundestag pour faire adopter les dépenses militaires et le fonds d'investissement dans les infrastructures, un soutien que les Verts ne donneront pas sans marchander.
Nathalie Versieux.
8h10 à Paris, ils en rêvent. En rugby, les Français vont-ils remporter le tournoi des Six Nations ?
Le 15 de France peut y croire, il est premier après ce choc de titans remporté hier après-midi face à l'Irlande, 42-27. Malgré la sortie sur blessure du capitaine Antoine Dupont, au grand désespoir des Irlandais qui avaient remporté tous leurs matchs jusqu'ici. Alors l'ambiance était un peu morose hier soir à Dublin, le reportage de Clémence Pénard.
Dans les pubs, la déception était palpable. Parmi les supporters irlandais, Dara accuse le coup.
Ce n'est pas génial pour l'équipe irlandaise, mais il n'y avait pas moyen de battre les Français. On n'a pas pu percer leur défense, elle a été solide du début à la fin et on n'a juste pas réussi à passer à travers.
Et une défaite un peu plus amère, puisque trois piliers de l'équipe irlandaise ont annoncé leur départ à la retraite. La semaine dernière, c'était donc leur dernier match international au stade Aviva de Dublin.
C'est sûr, je les plains un peu, mais je pense qu'ils ont gardé la tête haute. Kian Healy a marqué un essai dans les 10 dernières minutes, mais en tant qu'équipe, l'Irlande n'a tout simplement pas été à la hauteur. Ouais.
Les supporters français, quant à eux, étaient en pleine forme, comme Quentin, étudiant, drapeau tricolore sur les épaules.
Fallait qu'on gagne ce match, bah, j'ai vu le classement, on est premier, donc c'est carré, il reste un match, je crois. Et on va finir premier. C'est vrai que gagner à l'extérieur, c'est pas mal. Bon, je vais dire la vérité, moi je suis pour le foot, je connais rien au rugby. Mais c'est la France, ça fait plaisir, on est là, c'est la bonne ambiance et voilà. Allez la France, allez les Bleus.
Grâce à cette victoire, les hommes de Fabien Galthié prennent en effet la tête du classement. Samedi prochain, dernier match de l'Irlande qui affrontera l'Italie, tandis que la France, elle, fera face à l'Écosse au Stade de France. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Et aujourd'hui, dernier match de la quatrième journée du tournoi Destination. L'Angleterre affronte l'Italie. Coup d'envoi à 15h, temps universel.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Il est 8h12 à Paris. 7h12 en temps universel. Dans quelques minutes sur RFI, la chronique politique, on verra comment le président Emmanuel Macron tente un retour en grâce auprès des Français. En s'emparant du dossier ukrainien, il a multiplié les prises de parole sur le sujet cette semaine. Dans Chemin d'écriture, on redécouvrira un classique de la littérature africaine, Terre somnambule, du mozambicain Miyakuto. Une nouvelle traduction française vient de sortir, traduction plus ambitieuse, nous dira Tirthankar Chanda. On découvrira ensuite l'exposition Disco, I'm Coming Out. La Philharmonie de Paris revient sur l'histoire de ce phénomène musical mondial. Et d'abord, c'est la revue de presse des hebdomadaires et des journaux du dimanche avec Catherine Potet. Catherine, à la une, l'Europe face à Vladimir Poutine.
Oui, c'est à la une du Parisien dimanche. Trois drapeaux qui flottent au vent, drapeaux français, européens et ukrainiens. C'est le réveil de l'Europe, titre le journal, qui a interrogé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui se montre ferme. « Ne nous laissons pas intimider », dit-il. « La France pourrait-elle entrer en guerre ?» lui demande le journal. « Notre objectif est d'assurer une paix durable sur le continent européen », répond prudemment le chef de la diplomatie française, selon lequel nous obtiendrons cette paix en nous donnant les moyens de dissuader la menace. La Tribune dimanche, de son côté, a interviewé Sébastien Lecornu. Ceux qui nient la menace russe se trompent, estime le ministre des Armées. Les États-Unis sont-ils toujours les alliés de la France ? Je les considère toujours comme des alliés, en dépit de leur grande imprévisibilité, assure le ministre. Quant aux intentions côté russe, la méfiance est de mise. Ils ciblent notre démocratie et notre économie, accuse Sébastien Lecornu.
C'est aussi avec la guerre en Ukraine en toile de fond que le Nouvel Obs a interrogé Raphaël Glucksmann.
Le député européen, intellectuel de gauche, opposant de longue date à Vladimir Poutine, fait la une de l'hebdomadaire à l'occasion d'une grande interview. Nous avons un ennemi, explique Raphaël Glucksmann. Nous avons un ennemi, Poutine, qui incarne une menace directe contre nos démocraties. Il soutient les mouvements d'extrême droite partout en Europe, attaque nos infrastructures stratégiques. Sa cible, c'est l'existence même de cette Union européenne qui garantit la paix et la liberté sur le continent. Mais pour Raphaël Glucksmann, pas question de baisser les bras. Nous avons les moyens d'agir, de devenir une puissance avec laquelle il faut compter, assure-t-il. Nous n'avons pas à être les serpillères sur lesquelles les empires s'essuient les pieds. Le député européen n'en est pas pour autant moins inquiet et rappelle « Cela fait 20 ans que j'alerte sur le fait que la guerre va revenir dans nos vies parce que nous avons affaire à un régime fasciste, la Russie de Poutine, qui fonde sa dynamique interne sur l'expansionnisme et l'exaltation nationaliste. »
On part à présent aux États-Unis. Catherine, où se pose la question de l'opposition à Donald Trump. Où est-elle? Que fait-elle?
Question posée par l'Express. Qui pour freiner le 47e président, demande l'hebdomadaire, selon lequel l'opposition peine à s'organiser et à se faire entendre. Il y a bien quelques manifestations ici et là, mais aucun mouvement de grande ampleur. Le Parti démocrate est aux abonnés absents, explique l'Express. Il n'a pas de vrai leader, est divisé entre centristes et progressistes et semble incapable d'articuler un message efficace contre le rouleau compresseur républicain. Le seul qui se fait entendre, remarque l'hebdomadaire, c'est le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, ex-candidat à la présidentielle. À 83 ans, il s'est lancé dans un tour des États conservateurs et fait sale comble. Le trumpisme ne va pas être vaincu par les hommes politiques de Washington, arrangue-t-il, mais par vous, les électeurs. La contestation contre Trump n'en est donc encore qu'à ses débuts. Mais à mesure que les effets des licenciements de fonctionnaires et des suppressions de subventions publiques se font sentir, la grogne pourrait s'amplifier, estime l'Express qui cite Mark Cuban. Ce milliardaire hostile à Trump assure ainsi « Les gens commencent à comprendre que le chaos n'est pas bénéfique pour le pays. »
Et on feuillette à présent Le Point qui fait sa une sur le pouvoir des femmes.
À l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, l'hebdomadaire annonce un état des lieux en France et dans le monde. Quel est leur vrai pouvoir dans l'économie, la politique, dans le top 50 de l'industrie culturelle, dans le tableau d'honneur des scientifiques, interroge Le Point. L'hebdomadaire dresse de nombreux portraits d'entrepreneuses qui brillent dans la mode ou le monde du football, de patronnes de sociétés florissantes ou encore de scientifiques. Cela va de la chanteuse américaine et milliardaire Taylor Swift à l'astronaute française Sophie Adenau. Autant dire que les femmes puissantes ne manquent pas, même si elles ont souvent dû faire face à une forme d'hostilité ou d'ignorance du côté des hommes. Exemple avec Laura Chobard, la directrice de la prestigieuse école polytechnique. « Je ne compte pas le nombre de fois où on m'a prise pour la secrétaire du service », raconte-t-elle. Graphique à l'appui, Le Point nous explique qu'il faudra encore beaucoup d'efforts pour que les femmes soient aussi nombreuses que les hommes au poste à responsabilité, sans oublier les inégalités salariales, toujours d'actualité. Les femmes de pouvoir mises à l'honneur par Le Point, car nous dit-on, rien n'est plus efficace que les rôles modèles qui font rêver. Tout de même, les autres femmes, celles qui ne font peut-être pas rêver, peuvent elles aussi être des modèles.
La revue de presse signée Catherine Potet. On passe à notre chronique politique française. Cette semaine, le président a été au centre du jeu. Chaque jour ou presque, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la guerre en Ukraine. Un dossier qui pourrait d'ailleurs l'aider à se remettre en selle après sa dissolution ratée de l'Assemblée et la censure du gouvernement Barnier il y a quelques mois. Valérie Gasse, avec le conflit ukrainien, donc Emmanuel Macron peut-il trouver un second souffle ?
En tout cas, c'en est fini de la période d'effacement pour Emmanuel Macron. Avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses revirements sur l'aide à l'Ukraine, Emmanuel Macron est remonté au créneau sur la scène diplomatique. On l'a vu partout, de Washington à Bruxelles, en passant par Lisbonne, essayant de jouer les intermédiaires avec un président américain imprévisible, de se concerter avec les Européens et Volodymyr Zelensky pour engager le réarmement de l'Europe. Avec un message, l'heure est grave, la Russie représente une menace existentielle, Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste, et des interventions médiatiques à destination des Français, surtout les supports, presse écrite, réseaux sociaux et finalement allocution solennelle. La crise géopolitique a permis à Emmanuel Macron de faire de la diplomatie son domaine réservé, une priorité nationale.
Et alors que cherche Emmanuel Macron ?
D'abord à peser dans la négociation sur la paix en Ukraine et à défendre les intérêts de l'Europe, mais aussi à revenir dans le débat politique et à restaurer son image. Dans son camp, une députée pense que le jeu international est un bon levier pour le président, se réjouit de le voir remonter sur le ring et tacle tous ceux qui s'écharpent sur les retraites alors que la guerre est à nos portes. Une manière de participer dans les pas du chef de l'État à la dramatisation de la situation qui justifie les efforts qui vont être demandés aux Français pour permettre la montée en puissance des dépenses militaires.
Valérie, Emmanuel Macron peut-il marquer des points dans l'opinion ?
Le chef de l'État l'espère certainement. Dans son allocution mercredi dernier, il a en quelque sorte appelé à la mobilisation nationale en expliquant à ses concitoyens « La patrie a besoin de vous ». Une enquête a indiqué que plus de la moitié des Français l'avaient trouvé convaincant. Emmanuel Macron réussit à être crédible sur le registre chef de guerre, père de la nation. Une ancienne ministre explique aussi qu'il a cette force d'avoir une lecture des défis de demain. Mais la question est de savoir si ce retour sur le devant de la scène en raison de la crise ukrainienne peut suffire à effacer durablement son image de président à bout de souffle.
Valérie Gasse pour la chronique politique. 7h20 en temps universel. C'est un classique de la littérature africaine moderne, Terre somnambule, du mozambicain Miyakuto, est paru en 1992, traduit en 33 langues, et ce roman vient d'être traduit à nouveau en français, une nouvelle version qui tente de coller un peu plus au style créatif riche de Miyakuto. Bonjour Tirthankar Chanda.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez parlé, Tirthankar, avec la traductrice de Miyakuto.
La traduction de Marie-Yvonne Lapouche-Pétorelli était épuisée depuis une dizaine d'années. Et l'idée, c'était que ce texte existe de nouveau en français. Nous en avons souvent parlé avec Miyakuto. Et donc, on a attendu que les conditions éditoriales soient réunies pour le faire. Et les choses se sont débloquées en septembre 2020 et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur cette nouvelle traduction.
Ainsi parle Elisabeth Monteiro Rodriguez, traductrice attitrée de Miyakuto. Elle connaît bien le projet littéraire de cet écrivain, pas comme les autres. Avec une quinzaine de romans à son actif, Kuto s'est fait connaître en 1992 en publiant Terre somnambule.
Et alors que raconte ce roman, Tirthankar ?
C'est un roman sur la guerre civile mozambicaine raconté dans un style magico-réaliste. L'auteur met l'accent sur les conséquences psychiques et culturelles de la guerre sur les hommes. Victimes d'atrocités et de souffrances, les protagonistes du roman tentent de se reconstruire. C'est ce processus qui est raconté dans ce beau livre à travers le parcours allégorique de Touahir et de Muidinga, un vieil homme et un jeune adolescent, cheminant ensemble sur une route défoncée s'étendant par-delà des siècles, écrit Kuto. Lorsque la nuit tombe, le duo trouve refuge dans un machin bimbo, soit un carbrousse tout calciné, où la découverte du journal intime d'un homme nommé Kintu, convoquant d'autres univers que les leurs, les tient éveillés. Ce qui frappe dans ce roman, c'est la créativité narrative et poétique de l'auteur, dont témoigne la langue de Miyakuto, foisonnante et perméable à toutes les imaginations du monde. Elisabeth Monteiro Rodriguez.
Miyakuto se considère lui-même comme un traducteur. Ça tient à son positionnement dans son écriture entre différents mondes, entre par exemple l'urbain et le monde rural, entre les anciens et l'histoire. Comme là, donc, on a le personnage de Kinzu qui est un intermédiaire entre sa famille et puis donc il a été à l'école, donc ça va créer des choses identitaires. Et je pense que Miyakuto, en fait, ce langage, ce qu'il fait, c'est ça, c'est pour essayer de réunir en fait tous ces mondes et de les faire coexister.
Comment la nouvelle version française rend compte du style riche de Miyakuto ?
Cela passe par une véritable révolution du langage poétique, émancipé de toute orthodoxie normative, comme le souligne la traductrice.
Ce qu'il s'agit de faire, en fait, c'est de recréer en français ce que le texte fait à la langue portugaise. Le portugais de Miyakuto, en fait, c'est du portugais du Portugal avec une forte influence brésilienne. C'est du portugais du Mozambique. Donc, on va avoir des transferts de classe grammaticale, des changements de construction syntaxique, des emprunts aux langues africaines, et c'est également des inventions lexicales qui sont propres à l'auteur.
Cela donne un texte incandescent, évoquant dès l'incipit, et je cite, un pays où la guerre avait mort la route et où le paysage s'était métissé de tristesse, jamais vue, sous des couleurs qui poissaient à la bouche, alors que dans la savane alentour, seuls les baobabs contemplent le monde qui défleurit. L'inventivité de la langue d'Elisabeth Montero Rodriguez, qui puise son originalité dans le français d'ici et d'ailleurs, fait résonner avec une intensité nouvelle le chaos et la douleur des terres somnambules originelles.
La chronique Chemin d'écriture avec Tirtan Karchanda. Et je rappelle le nom de ce roman qui vient d'être traduit donc à nouveau en français, Terre somnambule du mozambicain Miakuto. Dans quelques minutes sur RFI, un nouveau journal d'actualité africaine. Avant, on va se déhancher un peu à la Philharmonie de Paris. Ce n'est pas forcément là où on imagine une piste de danse, mais la salle de concert accueille en ce moment une exposition sur le disco. Elle s'appelle Disco I'm Coming Out, un aperçu avec José Marinho.
On s'y introduit comme dans une boîte de nuit et on y ressort avec la fièvre du samedi soir. Dès l'entrée de l'exposition disco, on est accueilli par une boule à facettes géante et la musique du groupe new-yorkais Chic. Un ensemble d'archives audiovisuelles, de photographies, d'instruments et d'œuvres d'art renforce la dimension planétaire du disco, un style musical né aux États-Unis.
La musique disco s'étend du début des années 70 au début des années 80.
Jean-Yves Leloup est journaliste, DJ et co-commissaire de cet événement. Il est question ici de revenir sur cette décennie où les discothèques étaient des temples avec des fidèles dévoués du crépuscule à l'aube.
Les discothèques ont pris leur essor, comme le célèbre Studio 54 à New York, ou le Palace à Paris, ou la Main Bleue à Montreuil, qui a aussi été un grand club pour les populations africaines immigrées en Ile-de-France.
Cette exposition réactive la nostalgie de la fête et d'un courant de liberté comme l'Amérique n'en avait jamais connu. Mais le disco, c'est aussi l'histoire d'un style longtemps caricaturé. À rebours des clichés, la Philharmonie de Paris rend justice à la fulgurance de cette musique ancrée dans l'histoire et la culture noire des États-Unis, héritière de la soul, du gospel et du funk.
Le début des années 70 est marqué d'abord par des avancées sociétales et politiques pour certaines minorités suite aux célèbres émeutes de Stonewall en 69. Après cette émeute, il y a une vraie libéralisation, un recul du harcèlement policier dont souffraient ces lieux consacrés aux minorités. Et on va voir naître une sorte de nouvelle économie portée par la culture LGBT dans laquelle en partie va se développer la musique disco. Beaucoup de chansons à travers leurs refrains célèbrent effectivement une quête de liberté, d'émancipation sexuelle ou personnelle. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y aurait autant de parallèles avec effectivement l'arrivée de Trump et ce retour de bâton contre le féminisme, contre les luttes de la communauté LGBT. Tout ça prend un nouveau relief avec l'époque actuelle, entre le backlash qu'a connu le disco et qu'ont connu ses populations à partir de 79 aux États-Unis et ce qu'elles connaissent à nouveau en 2025 aux États-Unis.
L'exposition à la Philharmonie de Paris souligne bien l'aspect politique du disco qui continue de porter sur la piste de danse différentes minorités et classes sociales, toutes réunies dans un même élan hédoniste.
L'exposition Disco I'm Coming Out à la Philharmonie de Paris jusqu'au 19 août 2025 et Donna Summer pour nous réveiller dans RFI Matin.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
Est-ce de la magie ou bien une disparition jamais signalée? Qui s'occupe des courses, des déjeuners, des dîners, de cette cuisine qui fait tellement le quotidien qu'on n'y pense plus? Pourtant, les plats sont prêts. Ah, mais oui, il y a les femmes. À ce travail, à celles que l'on ne voit plus, hommage tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, avec Clémence de Navi sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr. Musique du monde, Laurence Alloir.
La session live reçoit deux groupes, Jawar et Adrian Soleiman. Jawar est un artiste belgo-tunisien qui propose une folk dream pop chouïa mélancolique. Et de son côté, le flamboyant saxophoniste Adrian Soleiman, vu aux côtés de Lady Gaga pendant les JO, présente son bel jazz club. 8 musiciens en studio, le sol a tremblé.
Musique du monde, Laurence Alloir.
Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU.
RFI.